En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
I'm Brady Olson, I'm 15, and I'm the presidential candidate known as D's Nuts.
La curiosité est un vilain défaut.
His name is really listed as D's Nuts, D's Nuts, D's Nuts.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le 26 juillet dernier, Brady Olson déposait sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Une candidature qui a fait le buzz. Le jeune homme, imaginez, il n'a que 15 ans et il faut en avoir 35 pour prétendre devenir président des États-Unis. Et il se fait appeler, comme vous l'avez entendu, D's Nuts, qui signifie ses bourses. Bon, voilà. C'est ce qui nous a en tout cas donné l'idée d'inviter dans la curiosité notre
le
Bruno
surnom
Fulini.
Le surnom ou le thème?
Le thème. Notre
sociétaire, on est
Bruno Fulini, historien, pour parler de ces candidats absolument étranges, étonnants, complètement farfelus, qui ont jalonné notre histoire à nous, en France. Vous allez bien, Bruno?
Bonjour. Vraiment, ces candidats, ils sont plus que nombreux. C'est une espèce de foire invraisemblable. J'ai eu l'occasion de me plonger dans les archives de toutes nos élections et la surprise de trouver les traces de gens. Alors, ils ne sont pas difficiles à identifier historiquement parce que généralement, ils obtiennent 0 voix, 1 voix, 20 voix. Quelquefois, ils se hissent à des sommets du genre 2 à 3%. Mais ils sont là. Et depuis qu'il y a des élections, il y a ce type de candidats un peu bizarroïdes, mais qui ont beaucoup de choses à nous apprendre.
Et qu'est-ce qui les pousse à se présenter, ces candidats? Parce qu'ils le savent, au fond d'eux, qui n'ont pas vraiment grande chance. Leur point commun, c'est un grain de folie.
Alors, ceux qui ont vraiment un grain de folie n'imaginent pas qu'ils n'ont aucune chance d'être élus. Ils pensent qu'ils vont vraiment être élus. Et puis après, il y a d'autres mobiles. Certains veulent se faire de la publicité. Vous avez des inventeurs qui veulent faire connaître leurs inventions. Des humanitaires qui œuvrent pour un grand but, une grande cause, quels que soient les moyens et les vicissitudes et les légumes pourris qu'ils puissent se prendre sur la tête au cours des réunions électorales. Rien n'y fait.
Vous disiez que vous êtes plongé dans les archives de nos républiques. Il y a des périodes plus ou moins fastes ou en permanence, il y en a eu des candidats comme ça, alors, improbables.
Déjà, il faut qu'il y ait des élections et des élections accessibles. Je veux dire par là des élections au suffrage universel direct. En France, c'est 1848, hein, c'est cette année-là, il y a une révolution, on reproclame la République, et puis on institue le suffrage universel direct, on convoque l'élection d'abord d'une assemblée, et plus tard, en décembre, pour la première fois, ce sera l'élection d'un président de la République au suffrage universel direct. Eh bien, tout de suite, vous avez des candidats qui se manifestent, des candidats sérieux, des candidats étonnants. Par exemple, en 1848, on trouve l'affiche d'un certain Parfu qui était coutelier, qui fait une grande affiche en vers, en alexandrin, où il raconte sa vie misérable. Et en fait, l'argument, c'est qu'il faut les lire un peu pour le sortir de la misère, quoi, grosso modo.
Et quand un candidat farfelu à la présidence de la République s'adresse à vous, ça peut donner ça?
Je suis un enfant de l'absurde. Le monde est absurde. Moi, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est le sourire, c'est l'utopie, c'est Blaise Pascal. Les pensées de Pascal m'ont poussé à penser. Penser que la pensée peut penser. Il faut penser. La pensée est passée. Non, le passé est passé. Non, on vit en une époque de dingue.
On vit une époque de dingue.
C'est du Raymond Devos, ça.
Et oui, eh ben non, c'est du Hagigi Mouna. Il était vélorupcionnaire. Mais qu'est-ce donc, Bruno Fulini?
Vélorupcionnaire, oui, effectivement. Donc la vélorution, au fond, il était précurseur, puisque c'était quelqu'un qui condamnait l'automobile dans les centres-villes et qui voulait qu'on la remplace par des vélos. Mais ça, c'est dès les années 60, si vous voulez. Donc, ce qui est intéressant chez ces candidats bizarroïdes, et Dieu sait si Hagigi Mouna était bizarre, avec ses badges, son chapeau, il bénissait les foules avec un balai de chiottes en disant que c'était son goupillon à merde. Bon, vous voyez un petit peu le folklore. Et en même temps, sur le fond, son programme préfigure de 20 ans, et avec le sourire en plus, le programme des écologistes.
Mais il est allé jusqu'à se présenter pour de bon, et on pouvait mettre son nom dans le bulletin. On pouvait voter pour lui.
Oui, il développe une espèce de programme un peu attrape-tout particulier. Hein, il est un des premiers à défendre l'environnement. Sa première candidature, il l'a fait sous les couleurs d'un parti qui a été créé par Pierre Dac et qui est le mouvement ondulatoire unifié, donc le MOU, ce qui permet de voter mou.
Mou.
Voilà, évidemment. Bon, et puis ensuite, il va se présenter en son nom même. Et puis là, il a des slogans du style les masses médias rendent les masses médiocres. Il voulait coter en bourse les valeurs morales, vous voyez ce genre de choses. Mais même très activiste, je crois que c'est Kavanagh qui avait dit Mouna, c'est une manif à lui tout seul.
Joli. Bruno Follini, vous publiez aux éditions Auray Voté Fou. Quand on a feuilleté ce livre, on est tombé sur un certain Louis Paulingagne. Alors, il porte assez mal son nom de famille, apparemment. Et il aspirait à devenir le décrotteur du monde. Mais qu'est-ce donc cette ambition ?
Le décrotteur du monde, comme beaucoup de candidats, il s'imagine qu'il va tout changer, qu'il va tout rénover. Ah, il faut savoir que là, nous sommes au milieu du 19e siècle. Il se présente à partir de 1869. Et Louis Paulingagne appartient à ce qu'on appelle aujourd'hui les fous littéraires. Hein, ces écrivains ratés qui ont laissé des œuvres invraisemblables, mais à peu près sans lecteur, et qui aujourd'hui sont recherchées justement parce qu'elles sont illisibles. Et j'ai la chance de posséder un exemplaire de l'Unitéide ou la Femme Messie, énorme ouvrage de 25 000 alexandrins, absolument illisible. En fait, Louis Paulingagne, il faut se l'imaginer comme une sorte de sous-Victor Hugo. Donc, personnage barbu, exalté, romantique d'un certain point
Doué.
De vue. Non, complètement... Au départ, c'est un avocat de province qui est monté à Paris pour essayer de faire une carrière littéraire. Il a eu une chance, c'est qu'il a rencontré une femme riche qui a subventionné l'impression à compte d'auteur de ses œuvres et elle s'est ruinée. Il a fini d'ailleurs dans une misère atroce, mais entre-temps, il a fait parler de lui à la fois comme poète, il essayait de placer ses œuvres véritablement illisibles, mais complètement délirantes.
Il avait créé une langue, en fait, c'est ça ?
Alors, et il a de grands combats humanitaires, et en particulier, ce qui est un classique hein, chez ce type de candidat, il veut rapprocher les peuples, donc il crée une langue qu'il appelle de son nom le gagne monopanglote. Étymologiquement, monopanglote, c'est une seule langue, donc oui. Il faudrait que l'humanité parle sa langue à lui. Et puis, toujours pour réconcilier toutes les factions, eh bien, il a un modèle de gouvernement, c'est la République Empire Royauté. La RER, voilà.
Comme il y a tout dedans, c'est
voilà, il y a tout. À son époque, on s'est
trippé en avance sur son temps.
Voilà.
Ça s'appelle la RER.
N'est-ce pas?
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas d'un qui ne saurait pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République.
La curiosité est un vilain défaut.
Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre.
Sidonie Bonnec, Thomas Huguet. On vous présente tous ces candidats malheureux, farfelus à l'élection présidentielle, tous ceux qui ont inspiré finalement Coluche, dont on vous racontera évidemment la campagne. Tout à l'heure, nous sommes en compagnie de l'historien Bruno Follini qui publie un livre, Votez fou,
c'est presque un programme.
Ce sont des idées de programme presque, enfin des programmes qu'il ne faut pas suivre évidemment. Vous allez nous présenter un certain Marcel Barbu qui s'est présenté au présidentiel de 1965, qui est-il ?
Alors Marcel Barbu est le petit candidat de la première élection au suffrage universel de la 5e République il y a 50 ans, 1965. Donc c'est l'élection qui va déboucher sur la réélection du général de Gaulle, mis en ballottage par François Mitterrand. Mais il y a d'autres candidats et en particulier il y a un peu un trublion, c'est ce Marcel Barbu qu'on a surnommé le candidat au béret parce qu'on voit surgir une espèce de Français moyen avec effectivement un petit béret sur la tête qui se déplace à vélo, qui veut même pas faire la campagne télévisée, une grande nouveauté à l'époque, qui n'en voit pas l'utilité, il préfère envoyer sa photo en disant vous avez qu'à lire un message de ma part.
Alors, elle n'est pas le nez quand même. Hein.
Alors Barbu, c'est un personnage très estimable. De Gaulle dira gentiment c'est un brave couillon. Mais il le dira sans méchanceté. Brave couillon parce qu'en fait c'est un militant du logement social. C'est quelqu'un qui est assez engagé, qui essaye de trouver des formules pour loger tout le monde à une époque où la crise du logement est encore une réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marcel Barbu a même été très brièvement député. Il a été élu député en 1946. À cette époque-là, lui c'est un chrétien d'extrême gauche. Donc c'est une tendance à lui tout seul. C'est souvent le cas de ces petits candidats qui ont bricolé un peu leur idéologie. À l'époque où il est député, en 1946, il considère qu'il est à gauche des communistes. Donc, quand il entre dans l'hémicycle, il demande aux huissiers une chaise pour s'asseoir à la gauche du groupe communiste. Donc, en dehors des sièges, normalement, impartis aux parlementaires. Presque 20 ans après, on le voit ressurgir à cette élection présidentielle, où il se présente un peu comme l'homme des sans-voix, le candidat des sans-voix.
Et le candidat des chiens battus aussi.
Oui,
on a dit ça. Qu'est-ce qu'il y a dans son programme ?
En fait, il y a l'idée de rompre avec une forme d'affairisme, de rendre le logement plus accessible. Ce sont des choses tout à fait estimables. Ce n'est pas du tout un programme délirant. Et d'ailleurs, bon, on peut sourire en disant qu'il a obtenu 1,15% des suffrages, mais ça représente tout de même 280 000 Français qui ont voté pour lui. Ce n'est pas ridicule. Simplement, cette candidature, elle va avoir un effet. C'est qu'on va se dire, voilà, on ne peut pas laisser n'importe qui se présenter à l'élection présidentielle. Il faut créer un filtre. Et c'est ainsi qu'il y aura ultérieurement un filtre d'abord de 100 signatures de maires et il sera relevé dans un second temps à 500 signatures pour éviter qu'il y ait trop de candidats au béret dans les élections présidentielles.
1848, il y a tout de suite, vous nous l'avez dit, un premier candidat, Adolphe Bertrand. Pourquoi il apparaît comme un illuminé, Adolphe Bertrand ?
Alors, Adolphe Bertrand, par rapport à d'autres candidats bizarroïdes, a un immense avantage. Par son père, c'est un riche bourgeois. Donc, il a beaucoup d'argent à consacrer à ses multiples candidatures. Encore une fortune qui va être engloutie pour pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, il va pouvoir faire parler de lui. Alors, d'abord, d'un point de vue idéologique, il a une étiquette géniale, c'est le candidat humain. Donc, si vous êtes humain, vous votez pour lui. Et ses adversaires sont évidemment les inhumains. Donc vous avez le choix entre voter pour les humains ou pour les inhumains.
C'est assez fort quand même.
C'est assez fort, c'est assez fort. Et puis c'est un précurseur, puisque évidemment pour lui, dans l'humanité, eh bien, il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes. En 1848, je vous ai dit que le suffrage était universel, il faut bien sûr comprendre, suffrage universel masculin, il faudra presque un siècle pour qu'il devienne féminin. Pour Adolphe Bertrand, c'est inacceptable. Et donc, lui considère que le candidat humain est le candidat de toute l'humanité, même les femmes. Et alors il a cette idée géniale qui est une sorte de préfiguration très astucieuse de la parité. Il se dit, mais puisque la France a un parlement bicaméral, il suffirait qu'il y ait une assemblée, mettons la Chambre des députés masculine élue par les hommes, et puis un Sénat féminin élu par les Françaises. Et ainsi, chaque sexe aurait son assemblée, et puis débrouillez-vous pour faire la navette.
Mais quelle bonne idée.
N'est-ce pas ? On pourrait aussi imaginer de croiser les votes, ce serait encore plus drôle, une assemblée d'hommes élue par les femmes, une assemblée de femmes élue par les hommes. Vous voyez qu'il y a un côté concours Lépine chez ces petits candidats qui est assez extraordinaire. Et alors, chez Bertrand, ça se double de quelque chose d'extrêmement intelligent mais qui à son époque le fait passer vraiment pour un fou furieux. Nous sommes encore une fois au milieu du 19e siècle. Il est candidat à cette élection présidentielle de 1848 et il fait des affiches à son nom et il a l'idée de mettre sa photo sur les affiches. Alors entendons-nous bien, nous sommes au tout début de l'invention de la photographie, donc d'abord ça coûte une fortune, et ensuite il faut faire des tirages photographiques qu'on colle sur chaque exemplaire. Mettre sa tête sur une affiche, à l'époque, c'est considéré comme complètement zinzin, comme une preuve supplémentaire de sa folie. En fait, c'est un immense précurseur de la communication politique.
Tous ces candidats bizarres, loufoques, mystiques, marginaux, chimériques, ils ont, des décennies plus tard, inspiré celui qui finalement aura le plus inquiété peut-être la classe politique, c'est Coluche.
Réunion, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle.
30 octobre 80, c'est sa candidature, le candidat des fouteurs de merde. C'était comme ça qu'il s'appelait au début, sauf que ça va provoquer un séisme, cette histoire.
Oui, bizarrement, c'est le candidat le plus connu dans ces candidats qu'on pourrait qualifier de fantaisiste, alors qu'il n'a pas concouru à l'élection. Il a fait acte de candidature et puis il a renoncé quelques mois après. Par contre, un séisme, pourquoi ? D'abord parce que Coluche, au moment où il se déclare candidat, est déjà quelqu'un de très connu. Ensuite, évidemment, son style de campagne, soutenu par le Charlie Hebdo de l'époque, pour le moins des Capant, le seul candidat qui n'a aucune raison de mentir, tous ensemble pour leur foutre au cul, etc., etc., etc. Donc, c'est un véritable phénomène Coluche qui naît, à telle enseigne que les instituts de sondage vont le créditer de 8, 10 et jusqu'à 16% d'intention de vote. Donc, et ça là, fait voler en éclats toutes les prévisions des autres candidats.
Et là, on rigole plus.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans son programme, à Coluche ?
Dans son programme, il y a toutes sortes de choses, bon, très, très, très drôles, des slogans, bien sûr. Il y a aussi des mesures définitives, par exemple, plus de pauvres. On arrête avec ça.
Ben oui.
Voilà, ben oui, il fait y penser. Il y a une dimension également technologique. Il propose de créer, d'inventer, de fabriquer une fusée Ariane étanche, comme elle a l'habitude d'aller directement à l'eau après son lancement. Eh bien, au moins, comme ça, on la récupère.
On pourra la réutiliser.
C'est très inventif.
Mais c'est précurseur, parce qu'en ce moment, les scientifiques, notamment américains, travaillent sur une fusée qu'on puisse récupérer pour remplacer la navette. Mais oui, bien sûr.
Mais
oui,
ces petits candidats sont toujours précurseurs. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à eux. Vous savez, ce qui faisait mourir de rire nos arrière-grands-pères au 19e siècle, c'est quand des candidats proposaient le vote des femmes ou un président pour l'Europe, une Europe sans frontières. C'était considéré comme gaguesque. Moi, je dis qu'il faut être extrêmement attentif au programme des petits candidats qui portent souvent en germe ceux des candidats sérieux 50 ans plus tard.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Plaisir, donc c'est Nelly, vous allez m'en connaître. Et il y aura
c'est
le programme.
Qui sera le candidat pour
c'est moi qui suis la candidate.
Très bien.
Voilà, donc vous lirez le programme et Si vous avez décidé de voter pour nous, ben, vous pourrez le faire dimanche.
Moi, j'aime bien.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je défends simplement mes convictions pour défendre des mesures que j'estime justes.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Denis, c'était qui, là, Cindy Lee, qu'on vient d'entendre en campagne pour le plaisir?
Alors, Cindy Lee, c'est une ancienne pornostar, un peu stripteaseuse aussi, je crois, et qui, à plusieurs reprises, s'est présentée sous les couleurs du Parti du Plaisir. Sa mesure phare était en particulier la création d'un SAMU sentimental pour les personnes en mal d'amour. Bon, voilà.
Ça c'est lui pas a valu...
Alors, ça aussi, c'est une tendance assez contemporaine qui nous vient des États-Unis. De plus en plus de candidatures farfelues qui tournent autour des questions liées au sexe, au plaisir, etc.
Est-ce qu'il y avait du sexe dans la candidature de Ferdinand Lope?
Alors, Ferdinand Lope est vraiment très peu érotique, il a plein de qualités, mais c'est un monsieur sévère, figurez-vous, une espèce de pion ou de vieux prof d'autrefois.
Ferdinand... Quelle année?
Alors, c'est toute une vie, hein. c'est toute une histoire de la République, Ferdinand Lope, puisqu'il vient de Marseille et il débarque à Paris, jeune homme, en 1919. Il a plein d'ambitions politiques, sérieuses, c'est pas du tout un humoriste, hein. Ça c'est très important. Il pense qu'il va faire une carrière politique sérieuse, et ça commence d'ailleurs assez bien, puisque assez vite, en 1919, il réussit à s'insinuer au Palais Bourbon, et il va devenir le secrétaire d'un député, qui est un député vieillissant, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais qui a un immense avantage, c'est qu'il reste tout le temps dans sa circonscription en Lorraine, ce qui fait que lui, Ferdinand, bon, tout en étant payé, fait un petit peu ce qu'il veut à Paris, il multiplie les publications, les piges dans des journaux, et puis il commence à faire son trou politiquement. En 1928, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire, un parti de gouvernement, le Parti Radical, qui est le centre du pouvoir à l'époque, eh bien, investit ce jeune homme prometteur pour être candidat aux législatives. Donc là, on est vraiment aux portes du pouvoir. Mmh. Il n'a pas du tout compris une chose, c'est que le Parti Radical à l'époque défend un programme quand même très à gauche et qu'on l'envoie se présenter dans le centre de Versailles. Pas besoin de développer. Il va faire un peu plus de 4%. Ce sera le meilleur score de sa vie. Il va passer plus de 40 ans à se présenter, alors cette fois-ci sans investiture officielle, à toutes sortes d'élections avec des scores nettement plus bas.
Ferdinand Lope en campagne, ça donne ça.
Nous en arrivons maintenant aux moyens d'en sortir. Ah, ces moyens, je ne vous les dirai pas. Ah, lorsque je serai président de la République, ou même encore s'il le fallait, président du Conseil, ou alors les deux ensemble, j'appliquerai mon plan et personne d'autre.
Ah, est-ce que Ferdinand Lope buvait un peu parfois?
Ah non, pas du tout. D'accord. Vous savez, tous les hommes politiques de la Troisième République avaient cette façon un petit peu infatuée, emphatique de parler. Et en fait, il a totalement mimé l'éthique du personnel politique de son temps. Homme politique raté, il est vite tombé en but aux blagues de ses collègues, ce qui fait que régulièrement, dans les couloirs du Palais Bourbon, on lui portait un télégramme. « Ah, le président de la République vient de te nommer sous-préfet à Saint-Paul-de-Léon. » Alors, il sautait dans le train, il allait à Saint-Paul-de-Léon, et là, il se rendait compte que non seulement il n'était pas sous-préfet, mais que c'était même pas une sous-préfecture, et que c'était une blague. De la même façon, on lui expliquait qu'il fallait qu'il se présente à l'Élysée parce que le gouvernement venait de tomber et qu'on songeait à lui pour le nommer président du Conseil, bon, c'est-à-dire chef du gouvernement. Et donc, il arrivait devant le planton de l'Élysée, et puis à chaque fois, c'était le même sketch et il finissait au poste.
Il tendait un peu le bâton pour se faire battre quand même, Ferdinand Lope, parce que dans son programme, il y avait par exemple des coupures d'eau à partir de 21h pour encourager la natalité.
Alors, il y a toutes sortes de mesures extraordinaires chez Ferdinand Lope. La construction sur la Seine d'un pont de 300 mètres de large pour permettre d'abriter tous les clochards, l'édification d'un toboggan place de la Sorbonne pour le délassement des masses estudiantines. Des tapis roulants pour faciliter le labeur des péripatéticiennes.
Ça, c'est délicat.
N'est-ce pas, bien, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup aussi le creusement d'une gare maritime place Saint-Michel pour permettre aux étudiants désargentés d'aller taper plus vite leur oncle d'Amérique. En fait, c'est qu'on entend bien à ces revendications que ce sont celles de son public, c'est-à-dire les étudiants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, devenu vraiment trop excentrique, il est rejeté du Palais Bourbon, il va se replier sur le Quartier Latin et les étudiants vont s'emparer de lui. Il devient un peu la mascotte des étudiants du Quartier Latin qui le présentent et qui écrivent pour lui des mesures complètement loufoques. Lui a l'impression d'être un candidat sérieux. Il est le candidat de rénovation d'initiative républicaine, ce qui veut dire rire, mais il ne s'en rend pas compte. On organise des réunions dans des salles qui portent son nom, il ne comprend pas que c'est la salle Lope, etc. Et je pourrais multiplier les exemples. On lui donne des slogans.
Oui, un slogan, genre j'en ai trouvé un. Au char de l'État, il faut la roue d'un lop.
La roue d'un lop. Et d'ailleurs, ses partisans s'appelaient les lopettes, alors que ses ennemis étaient les antilopes. Et bien sûr, il y avait la masse des indécis, hein, des neutres, des tièdes, qui étaient les interlopes. Mais en fait, le pauvre Ferdinand Lop, on le sait parce qu'il a laissé des mémoires, n'a absolument pas compris qu'il était chahuté. Il pensait qu'on se moquait un peu de lui aux entournures, mais qu'il allait vraiment être porté au pouvoir. Et très sincèrement, parce que c'est un naïf, il pense qu'il va vraiment sauver la France. Alors, en fait, son problème, c'est qu'il avait peut-être un programme sérieux qui aurait tout changé, mais il avait peur de se le faire piquer. Donc, la condition était claire, si on voulait qu'il applique son programme de salut national, il fallait d'abord les lire, pas question de le dévoiler comme ça dans une campagne électorale.
C'est pour ça qu'il dit dans le son qu'il ne révélera rien.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ferdinand Lop, dès 1948, s'est présenté, s'est déclaré candidat à la présidence des États-Unis d'Europe. Donc là aussi, quelque chose de tout à fait précurseur.
Tous ces élus auxquels vous avez échappé, vous pouvez les découvrir dans Votez Fou. Merci Bruno Fellini, vous publiez ce livre chez Auré. C'est déjà la fin de cette curiosité du samedi, mais heureusement, on a le bonheur de se retrouver demain avec au programme les bonnes manières.
J'en ai plein, moi.
Des bonnes manières ?
Bah oui.
Je sais pas, faut les sortir alors Thomas. On révisera en effet les règles de la politesse demain. Et de savoir-vivre. Non, vous êtes très bien élevé.
Ah, j'espère bien. On parlera aussi des espèces invasives. Oula, ça fait peur la musique. Comme le frelon asiatique ou encore le moustique tigre. Que font ces espèces en France ? D'où viennent-elles ? Sont-elles dangereuses pour notre écosystème et pour l'homme ?
Eh bien, réponse demain, dès 14h. Bon après-midi sur RTL. Dans un instant, vous avez le plaisir de retrouver Éric Jean-Jean qui reçoit dans son grand studio. Vous l'entendez ?
C'est la Sou.
C'est la Sou.